Le journal de George Fox 1657-1661 de retour en Angleterre fin du volume, 1 page 4. Cette déclaration dissipa quelque peu l'air sombre qui pesait sur la ville et la campagne. Et peu après, le roi publia une proclamation qu'aucun soldat ne devait fouiller une maison sans un constable. Mais les prisons étaient encore pleines, plusieurs milliers d'amis étant incarcérés. Ce malheur avait été causé par la méchante insurrection de ces hommes de la 5e monarchie. Mais lorsque ceux d'entre eux qui avaient été pris en vinrent à être exécutés, ils nous rendirent justice en nous disculpant publiquement de toute participation à leur complot, ou même d'en avoir eu connaissance. Après cela, le roi, continuellement sollicité à ce sujet, publia une déclaration que les amis devaient être remis en liberté sans payer de frais. Mais il fallut de grands efforts, beaucoup de labeur, de travail et de peine avant d'obtenir cela, car Thomas Moore et Margaret Fell allèrent souvent trouver le roi à ce propos, et le roi les reçut avec bonté. Cette année-là, beaucoup de sang fut versé, nombre des juges de l'ancien roi furent pendus, éviscérés et écartelés. Parmi ceux qui souffrirent, il y eut le colonel Acker, celui-là même qui, du temps d'Olivet, m'avait envoyé en prison de l'SST à Londres. Ce fut un jour triste, un remboursement du sang par le sang. Car au temps d'Olivet Cromwell, lorsque plusieurs furent pendus, éviscérés et écartelés pour de prétendues trahisons, je sentis de la part du Seigneur Dieu que leur sang ne serait pas oublié, mais qu'il serait réclamé, et je le dis alors à plusieurs. Et maintenant, au retour du roi, ce fut le moment où plusieurs de ceux qui avaient été contre le roi furent mis à mort, tout comme ceux qui étaient pour le roi avaient auparavant été mis à mort par Olive. C'était une œuvre triste, détruisant des gens contrairement à la nature des chrétiens, qui ont la nature des agneaux et des brebis. Mais il y avait une main secrète pour amener ce jour sur cette génération hypocrite de croyants, qui, étant parvenue au pouvoir, devint orgueilleuse, arrogante et cruelle au-delà des autres, et persécuta sans pitié le peuple de Dieu. C'est pourquoi, lorsque les amis étaient sous de cruelles persécutions et souffrances au temps du Commonwealth, je fus poussé par le Seigneur à leur écrire, afin de recueillir le récit de leurs souffrances et de le présenter aux juges de paix lors de leur session, et s'ils ne leur rendaient pas justice, alors de le porter devant les juges aux assises. Et s'ils leur refusaient justice, de le porter devant le Parlement, et devant le protecteur et son conseil, afin que tous voient ce qui se faisait sous leur gouvernement. Et s'ils ne rendaient pas justice, alors de le porter devant le Seigneur, qui entendrait les cris des opprimés, des veuves et des orphelins, qu'il avait fait tels. Car ce pourquoi nous souffrions, et pourquoi nos biens étaient bien saisis par les tribunaux pour refus de prêter serment, c'était notre obéissance au Seigneur dans sa puissance et dans son esprit, lui qui est capable d'aider et de secourir, et nous n'avions pas d'autre secours sur la terre que lui. Et le Seigneur entendit les cris de son peuple, et fit venir un fléau débordant sur la tête de tous nos persécuteurs, ce qui répandit parmi et sur eux tous un tremblement, une terreur et une crainte, de sorte que ceux qui nous avaient affublés du sobriquet enfants de lumière et par dérision nous appelaient Quakers, le Seigneur les fit trembler de peur et d'effroi, et beaucoup d'entre eux auraient été heureux de pouvoir se cacher parmi nous, et certains, sous la détresse qui s'abattit sur eux, finirent par confesser la vérité. Oh, les reproches quotidiens, les injures et les coups que nous subissions parmi eux, jusque sur les grands chemins, parce que nous ne pouvions pas ôter nos chapeaux devant eux, et pour leur dire « tuez-toi », oh le ravage et le pillage que les prêtres firent de nos biens, parce que nous ne pouvions pas leur remplir la bouche et leur donner les dîmes. Lorsque les puritains calvinistes indépendants, les baptistes et les presbytériens arrivèrent d'abord au pouvoir, ils avaient une certaine sensibilité et s'écriaient que les dîmes étaient antichrétiennes, et appelaient les dîmes des rempeurs de maisons, allusion aux pharisiens, qui dévoraient les maisons des veuves en insistant sur les dîmes. Mais quand ces sectes se furent établies et eurent beaucoup de membres avec leurs maisons à clocher, ils commencèrent à faire des lois et des ordonnances, disant qu'il fallait aller aux maisons à clocher. Et lorsqu'ils s'enfoncèrent davantage dans. Ils disaient que les dîmes et les maisons à clocher étaient pour eux la loi divine, Dieu et l'Église, comme si Dieu ou l'Église du Christ avaient besoin de dîmes terrestres. S'ils avaient plutôt dit que les dîmes et les maisons à clocher relevaient de la loi humaine, nous l'aurions plus facilement cru. Et alors ils commencèrent à emprisonner et à persécuter les amis parce qu'ils ne voulaient pas leur donner les dîmes. Plusieurs milliers de nos amis, en ces jours-là, souffrirent l'emprisonnement, et plusieurs milliers de livres de biens leur furent pris. Ainsi firent-ils beaucoup de veuves et d'orphelins, car beaucoup moururent en prison où ils les avaient fait jeter. Mais quand le roi revint, la plupart d'entre eux perdirent leur emploi, tant les magistrats que les prêtres. Ils le perdirent, pour la même raison qu'ils nous avaient persécutés, pour n'avoir pas voulu se conformer à leur foi d'église et à leur directoire, qu'ils n'avaient désormais plus le courage de défendre. Certains se conformèrent au livre de la prière commune, épiscopale, et certains de leurs auditeurs, membres, dirent avec légèreté qu'il fallait se contenter de pain fait de pois si l'on ne pouvait obtenir du blé. Outre les emprisonnements, et outre les lourdes amendes qu'on nous infligeait parce que nous ne pouvions pas prêter serment. Mais pour toutes ces choses, le Seigneur Dieu plaida contre eux, Pourtant, certains étaient si endurcis dans leur méchanceté que, lorsqu'ils furent démis de leurs places et charges, ils dirent, s'ils avaient le pouvoir, ils feraient la même chose de nouveau. Mais l'épée et les armes du vieux Caïn lui furent retirées, et Judas perdit sa bourse, et lorsque ce jour de renversement vint sur eux, ils dirent, c'est toute notre celle des Quakers faute. C'est pourquoi je fus poussé à leur écrire et à leur demander, leur avons-nous jamais résisté lorsqu'ils nous enlevaient nos charrues et nos harnais de charrues, nos charrettes et nos chevaux, notre blé et notre bétail, nos marmites et nos plats, et qu'ils nous fouettaient, nous mettaient au carcan, nous jetaient en prison et tout cela uniquement pour servir et adorer Dieu en esprit et en vérité, et parce que nous ne pouvions nous conformer à leur religion, manières, coutumes et modes. Leur avons-nous jamais résisté, ne leur avons-nous pas offert nos dents à frapper, nos joues à arracher les poils, et nos visages à cracher dessus, leurs prêtres, qui les excitaient à de telles œuvres, ne les avaient-ils pas entraînés eux-mêmes dans le fossé? Pourquoi donc dirait-il, c'est toute notre faute? Alors que cela venait d'eux-mêmes et de leurs prêtres, leurs prophètes aveugles, qui suivirent leurs propres esprits dans le fossé, et ne pouvaient rien prévoir des temps et des choses qui s'abattaient sur eux, dont nous les avions depuis longtemps avertis, comme Jérémie et le Christ avaient averti Jérusalem. Ils pensaient nous lasser et nous ruiner, mais ils se ruinèrent eux-mêmes. Tandis que nous pouvions louer Dieu, car malgré tout leur pillage, nous avions encore une marmite, un plat, un cheval et une charrue. De nombreuses manières, ces professants furent avertis par la parole, par les cris et par des signes, mais ils ne voulurent rien croire jusqu'à ce qu'il fût trop tard. William Simpson fut poussé par le Seigneur à aller, à plusieurs reprises durant 3 ans, nu astérisque et pieds nus devant comme un signe, sur les marchés, dans les tribunaux, dans les bourgs, les villes, chez les prêtres et chez les grands, leur disant « Ainsi seront-ils dépouillés nus, comme lui avait été dépouillé nu. » Et parfois il était poussé à revêtir un cilice de poils, à se barbouiller le visage, et à leur dire, « Ainsi le Seigneur Dieu barbouillera toute leur religion, comme lui était barbouillé. » Ce pauvre homme endura de grandes souffrances, de cruels fouets de cravache et de fouets de coche sur son corps nu, de pénibles lapidations et des emprisonnements pendant 3 ans avant le retour du roi, afin qu'ils prissent avertissement, mais ils ne le firent pas, et récompensèrent son amour par des traitements cruels. Seul le maire de Cambridge le traita noblement, il mit sa robe autour de lui et le fit entrer chez lui. Astérisque, beaucoup de gens trouvent cela choquant, mais Isaïe aussi reçut l'ordre du Seigneur d'aller nu pendant 3 ans. Isaïe 20:1-4. Un autre ami, Robert Huntingdon, fut poussé par le Seigneur à entrer dans la maison à clocher de Carlisle, avec un drap blanc autour de lui, parmi les grands presbytériens et indépendants qui s'y trouvaient, pour leur montrer que la robe blanche des prêtres de l'église du roi allait revenir. Et il mit un licou autour de son cou pour leur montrer qu'un licou allait venir sur eux, ce qui s'accomplit sur certains de nos persécuteurs peu de temps après. Un autre, Richard Sall, vivant près de Westchester, étant constable de l'endroit où il habitait, reçut un ami qui lui fut envoyé avec un laissez-passer, que ces méchants professants avaient arrêté comme vagabond, parce qu'il allait de lieu en lieu dans l'œuvre du ministère. Et ce constable, convaincu par l'ami qu'on lui avait amené, lui donna son laissez-passer et la liberté, et fut ensuite lui-même jeté en prison. Après cela, un jour de sermon, Richard Sall fut poussé à aller à la maison à clocher pendant leur culte et à apporter à ses prêtres et gens persécuteurs une lanterne et une chandelle, comme figure de leurs ténèbres, mais ils l'outragèrent cruellement et tels les professants ténébreux qu'ils étaient, le mirent dans leur prison appelée Little Ease, et y serrèrent son corps de telle sorte que, peu après, il mourut. Bien des avertissements de diverses sortes, les amis furent poussés, dans la puissance du Seigneur, à donner à cette génération, ils les rejetèrent non seulement, mais maltraitèrent les amis, nous traitant de Quakers à la tête légère. Mais Dieu fit venir ses jugements sur ses prêtres et magistrats persécuteurs. Car quand le roi revint, la plupart furent chassés de leurs places et bénéfices, charges ecclésiastiques rémunérées, et les spoliateurs furent spoliés, et alors nous pouvions leur demander qui, désormais, avait la tête légère. Alors beaucoup confessèrent que nous avions été de vrais prophètes pour la nation, et dirent que, si nous n'avions crié que contre certains prêtres seulement, ils nous auraient appréciés, mais le fait que nous crions contre tous les prêtres leur fit nous détester. Mais maintenant ils disent que ces prêtres, alors tenus pour les meilleurs, étaient aussi mauvais que les autres. Car en vérité, certains de ceux qui passaient pour les plus éminents prêtres furent les plus amés et les plus grands instigateurs auprès des magistrats pour persécuter. Et ce fut un jugement sur eux que de se voir refuser la libre liberté de conscience quand le roi revint, parce que, lorsqu'ils étaient au sommet, ils n'auraient pas voulu que la liberté de conscience fût accordée aux autres. Un certain Hughes, de Plymouth, prêtre de grand renom au temps d'Olivet, lorsque quelques libertés étaient accordées, pria, que Dieu mette dans le cœur des principaux magistrats de la nation d'abolir cette maudite tolérance. D'autres priaient contre elle en l'appelant tolérance intolérable. Mais quelque temps après, quand le roi fut revenu et que le prêtre Hughes fut démis de son grand bénéfice pour ne pas s'être conformé au livre de la prière commune, un ami de Plymouth le rencontrant lui demanda, Considérez-vous la tolérance comme maudite maintenant? Et ne seriez-vous pas maintenant heureux d'avoir la tolérance? Le prêtre ne répondit rien, sinon en secouant la tête. Mais si rigides que fussent alors ces hommes contre la tolérance, il est bien connu que beaucoup d'entre eux présentèrent des pétitions au roi pour la tolérance et pour des lieux d'assemblée, et payèrent même des licences. Mais pour revenir au temps présent, la fin de l'année 1660 et le commencement de 1661. Bien que ses amis, qui avaient été emprisonnés lors du soulèvement de ces hommes de la monarchie, aient été remis en liberté, les réunions étaient encore fortement troublées, et les amis endurèrent de grandes souffrances, car, outre ce qui se faisait par les officiers et les soldats, beaucoup de vauriens et de gens grossiers entraient souvent. Une fois, alors que j'étais à Pall Mall, un ambassadeur, avec une troupe d'Irlandais et de rustres, vint à nous. La réunion était terminée avant leur arrivée, et j'étais monté dans une chambre, où j'entendis l'un d'eux dire qu'il tuerait tous les Quakers. Je descendis vers lui et fus poussé, dans la puissance du Seigneur, à lui parler. Je lui dis que la loi disait « œil pour œil, dent pour dent, mais toi, tu menaces de tuer tous les Quakers alors qu'ils ne t'ont fait aucun mal. Mais dis-je, voici l'évangile pour toi, voici mes cheveux, voici ma joue, voici mon épaule », en la tournant vers lui. Cela vint sur lui si fortement que lui et ses compagnons restèrent comme des hommes stupéfaits. Et ils dirent que, si tel était notre principe et si nous étions comme nous le disions, ils n'avaient jamais rien vu de pareil de toute leur vie. Je leur dis que ce que j'étais en parole, je l'étais aussi en vie. Alors l'ambassadeur, qui était resté dehors, entra, car, disait-il, le colonel irlandais était un homme si désespéré qu'il n'avait pas osé entrer avec lui, de peur qu'il nous fît du mal, mais la vérité l'emporta sur lui, et il se comporta affectueusement envers nous, comme aussi l'ambassadeur, car la puissance du Seigneur était sur eux tous. À Mill End, des soldats empêchèrent les amis d'entrer dans leur lieu de réunion. Mais les amis demeurèrent noblement dans la vérité, vaillant pour le nom du Seigneur, et à la fin, la vérité leur donna la domination. Vers ce temps, nous apprîmes que John Love, un ami qui avait été poussé à aller rendre témoignage contre l'idolâtrie des papistes, était mort en prison à Rome, et il fut rapporté par des religieuses en France qu'il avait été pendu sous le couvert de la nuit. Elles disaient qu'elles n'avaient rien contre lui, sinon qu'il était une menace pour leur religion. Et, pour couvrir la honte de leur acte, elles rapportèrent qu'ils s'étaient laissés mourir de jeûne. John Perrault était aussi prisonnier là-bas, et ayant été libéré, revint de nouveau, mais après son arrivée ici, lui, avec Charles Bailey et quelques autres, se détourna de l'unité des amis et de la vérité. Alors je fus poussé à publier un écrit déclarant comment le Seigneur le frapperait, lui et ses partisans, s'il ne se repentait pas et ne revenait pas, et qu'il se dessécherait comme l'herbe sur le faîte des maisons. Ce qui arriva à beaucoup d'entre eux astérisque, mais d'autres se repentirent et revinrent. Astérisque Thomas Elwood, dans son autobiographie, décrit Perrault comme quelqu'un qui s'était désigné lui-même ministre avant d'être prêt, et qui était si vaniteux qu'il décida d'aller à Rome pour convertir le pape au cacrisme. Il s'était d'abord élancé, s'opposant au fait d'ôter son chapeau pendant la prière, disant que c'était une violation de la conscience individuelle. Plusieurs le suivirent, dont Naylor et Elwood, qui tous deux revinrent. John Perrault s'élança plus tard, prétendument en objection aux réunions de femmes, mais en réalité il s'opposait à toute censure de sa conduite, il ne revint jamais dans la communion. Cherchant à discréditer les Quakers, il fut pris à forger un écrit trompeur en utilisant le nom d'Edward Burrough. Plus tard, il alla dans les colonies américaines, où il devint un persécuteur sévère des Quakers pour refus de prêter serment. Être convaincu de la vérité et rejoindre les Quakers ne conduisait pas automatiquement à renaître, encore moins à parvenir à la maturité. La croix était encore nécessaire pour souffrir, afin de faire mourir le vieil homme, avant la naissance, et ensuite la maturité était encore nécessaire. Ce qui ne mûrissait jamais en Christ était manifestement sujet à toutes sortes d'erreurs, particulièrement lorsqu'il ne voulait pas céder à la correction patiente et douce de ce qui était mûr en Christ. De plus, avant ce temps, nous reçûmes des nouvelles de la Nouvelle-Angleterre, que le gouvernement puritain y avait fait une loi pour bannir les Quakers hors de leur colonie, sous peine de mort s'ils revenaient. Plusieurs de nos amis, ayant été ainsi bannis et étant revenus, furent pris et effectivement pendus, et beaucoup d'autres étaient en prison, en danger de subir pareille sentence. Lorsque ceux-là furent mis à mort, j'étais en prison à Lancaster, et j'eus un sentiment parfait de leur souffrance comme si cela avait été moi-même, et comme si le licou avait été passé autour de mon propre cou, quoique nous n'en eussions pas alors entendu parler. Mais dès que nous l'apprîmes, Edward Burrough alla trouver le roi et lui dit « Il s'est ouvert dans vos domaines une veine de sang innocent qui, si elle n'est pas arrêtée, se répandra partout. » Le roi répondit « Mais je vais arrêter cette veine. » Edward Burrough dit « Alors faites-le promptement, car nous ne savons combien pourront bientôt être mis à mort. » Le roi répondit, « Aussi promptement que vous le voudrez, appelez, dit-il à certains présents, le secrétaire, et je le ferai sur le champ. » Le secrétaire étant appelé, un mandat mus fut accordé. Un jour ou deux après, Edward Burroughs retournant vers le roi pour demander que l'affaire fût accélérée, le roi dit qu'il n'avait pas, à présent, l'occasion d'y envoyer un navire, mais que si nous envoyions un navire, nous pourrions le faire aussitôt que nous voudrions. Edward demanda alors au roi s'il lui plairait d'accorder sa délégation à quelqu'un, un Quaker, pour porter le mandamus en Nouvelle-Angleterre. Il dit « Oui, à qui vous voudrez ». Sur quoi, B. nomma Samuel Shattuck qui, étant habitant de la Nouvelle-Angleterre, avait été banni par leur loi, pour être pendu s'il revenait, et la délégation lui fut accordée. Alors nous fîmes venir Ralph Goldsmith, un ami honnête, capitaine d'un bon navire, et nous nous mîmes d'accord avec lui pour 300 livres, avec marchandises ou sans marchandises, afin de prendre la mer dans 10 jours. Il se prépara à appareiller et avec un vent favorable arriva en environ 6 semaines à la ville de Boston, en Nouvelle-Angleterre, un matin du premier jour. Avec lui voyagèrent beaucoup de passagers, tant de nouvelles que de vieille Angleterre, des amis que le Seigneur poussait à aller rendre témoignage contre ses persécuteurs sanguinaires, qui avaient surpassé tout le monde en cet âge dans leur persécution sanglante. Les habitants de Boston, voyant un navire entrer dans la baie avec les couleurs anglaises, montèrent bientôt à bord et demandèrent le capitaine. Ralph Goldsmith leur dit qu'il était le commandant. Ils lui demandèrent s'il avait des lettres. Il répondit que oui. Ils demandèrent s'il les remettrait. Il dit « Non, pas aujourd'hui ». Ils allèrent donc à terre et rapportèrent qu'il y avait un navire plein de Quakers et que Samuel Shattuck était parmi eux, et ils savaient que, selon leur loi, il devait être mis à mort pour être revenu après bannissement. Mais ils ne connaissaient ni sa mission ni son autorité. Ainsi, tout étant tenu secret ce jour-là, et aucun des gens du navire n'étant autorisé à aller à terre, le lendemain matin Samuel Shattuck, le délégué du roi, et Ralph Goldsmith allèrent à terre, et renvoyant vers le navire les hommes qui les avaient débarqués, ils traversèrent tous deux la ville jusqu'à la porte du gouverneur, John Endicott, et frappèrent. Il envoya un homme pour savoir leur affaire. Ils lui firent dire que leur affaire venait du roi d'Angleterre et qu'ils ne remettraient leur message à personne, sinon au gouverneur lui-même, sur quoi on les admit, et le gouverneur vint à eux, et ayant reçu la délégation et le mandamus, il ôta son chapeau et les regarda, puis sortant il dit aux amis de le suivre. Il alla chez le lieutenant-gouverneur et, après une courte consultation, revint vers les amis et dit « Nous obéirons aux ordres de Sa Majesté ». Après cela, le capitaine donna la permission aux passagers de venir à terre, et bientôt le bruit de l'affaire se répandit dans la ville, et les amis de la ville et les passagers du navire se réunirent pour offrir leurs louanges et actions de grâce à Dieu, qui les avait si merveilleusement délivrés des dents du dévoreur. Pendant qu'ils se réunissaient, un pauvre ami entra, qui, condamné par leur loi sanguinaire à mourir, avait été quelque temps au fer, attendant l'exécution. Cela ajouta à leur joie et les amena à élever leur cœur en haute louange à Dieu, qui est digne à jamais d'avoir la louange, la gloire et l'honneur, car lui seul est capable de délivrer, de sauver et de soutenir tous ceux qui mettent sincèrement leur confiance en lui. Suis une copie du mandamus, Charles R., fidèles et bien-aimés, nous vous saluons. Ayant été informé que plusieurs de nos sujets parmi vous, appelés Quakers, ont été et sont emprisonnés par vous, dont certains ont été exécutés, et d'autres, comme il nous a été représenté, sont en danger de subir le même sort, nous avons jugé bon de vous signifier à l'avenir notre volonté à cet égard. Et par la présente nous exigeons que, s'il se trouve parmi vous des personnes de ce peuple appelé Quakers, déjà condamnées à souffrir la mort ou une autre peine corporelle, ou qui sont emprisonnées et exposées à pareille condamnation. Et pour ce faire, c'est nos lettres vous tiendront lieu de mandat et de décharge suffisant. Donnez en notre cour à Whitehall, le 9 jour de septembre 1661, la 13e année de notre règne. Souscrit à notre fidèle et bien-aimé John Endicott, Esq., et à tout autre gouverneur ou gouverneur de nos plantations de la Nouvelle-Angleterre et de toutes les colonies qui s'y trouvent, présents ou à venir. Et à tous ministres et officiers de nos plantations et colonies sur le continent de la Nouvelle-Angleterre. Par ordre de Sa Majesté, William Maury, asterisque le roi ordonna aux magistrats du gouvernement de Boston d'envoyer en Angleterre tout Quaker condamné. Les magistrats de Boston savaient parfaitement qu'ils avaient violé les lois d'Angleterre en tuant et mutilant les Quakers, et, craignant leur témoignage s'ils étaient renvoyés en Angleterre, les lâches magistrats puritains libérèrent immédiatement tous les Quakers de prison et annulèrent leur condamnation afin de contourner leur envoi en Angleterre. Quelque temps après, plusieurs magistrats de la Nouvelle-Angleterre vinrent ici avec l'un de leurs prêtres. Nous eûmes plusieurs entretiens avec eux au sujet du meurtre de nos amis, les serviteurs du Seigneur, mais ils avaient honte d'assumer leurs actions sanglantes. Lors d'une de ces rencontres, Je demandai à Simon Broadstreet, l'un des magistrats de la Nouvelle-Angleterre, s'il avait participé à la mise à mort de ces quatre serviteurs de Dieu, qu'ils avaient pendus parce qu'ils n'étaient que des Quakers, comme il les avait surnommés. Il avoua que oui, et je lui demandai alors, ainsi qu'au reste de ses associés présents, s'il reconnaissait être sujet des lois d'Angleterre, et s'il l'était, en vertu de quelles lois avaient-ils mis nos amis à mort. Ils dirent qu'ils étaient sujets des lois d'Angleterre, et qu'ils avaient mis nos amis à mort par la même loi que celle par laquelle les Jésuites sont mis à mort ici en Angleterre. Je leur demandai alors s'ils croyaient que ces amis à nous, qu'ils avaient mis à mort, étaient des Jésuites ou influencés par les Jésuites. Ils dirent non. Alors, dis-je, vous les avez assassinés, si vous les avez mis à mort par la loi selon laquelle les Jésuites sont mis à mort ici en Angleterre, tout en confessant qu'ils n'étaient pas Jésuites. Il apparaît donc clairement que vous les avez mis à mort selon votre propre volonté, sans aucune loi. Alors Simon Broadstreet, se voyant, lui et sa compagnie, pris au piège par leurs propres paroles, demanda « Étions-nous venus pour les piéger ?» Je leur dis qu'ils s'étaient piégés eux-mêmes, et qu'on pourrait justement les mettre en cause pour leur vie. Et si le père de William Robinson, qui était l'un de ceux qui furent mis à mort, était en ville, il était probable qu'il les mettrait en cause et mettrait leur vie en péril. Alors ils commencèrent à s'excuser, disant « Il n'y a plus de persécution maintenant parmi nous, mais le lendemain matin nous reçûmes des lettres de la Nouvelle-Angleterre nous informant que nos amis y étaient de nouveau persécutés. Nous retournâmes donc vers eux et leur montrâmes nos lettres, ce qui les réduisit au silence et à la honte. Ils semblaient dans une grande peur, à l'idée que quelqu'un pût leur demander des comptes et les poursuivre au péril de leur vie, surtout Simon Broadstreet, car il avait confessé devant tant de témoins qu'il avait participé à la mise à mort de nos amis, qu'il ne pouvait le nier, bien qu'ensuite, par peur, il tergiversa et aurait voulu se rétracter. Après cela, lui et les autres quittèrent bientôt la ville et retournèrent en Nouvelle-Angleterre. J'allai aussi voir le gouverneur Winthrop et m'entretins avec lui de ces choses, mais il m'assura qu'il n'avait eu aucune part à la mise à mort de nos amis, ni ne les avait persécutés d'aucune manière, mais qu'il était de ceux qui s'y étaient opposés. Ces avares persécuteurs de la Nouvelle-Angleterre étaient un peuple qui avait fui l'ancienne Angleterre à cause de la persécution des évêques ici. Mais lorsqu'ils eurent le pouvoir entre leurs mains, ils dépassèrent de beaucoup les évêques en sévérité et en cruauté. Là où les évêques leur avaient fait payer 12 pence par dimanche, ainsi nommés, pour ne pas venir à leur culte ici, eux imposèrent une amende de 5 shillings par jour à ceux qui ne voulaient pas se conformer à leur culte volontaire là-bas, et saisirent les biens des amis qui ne pouvaient la payer. De plus, parmi ceux qu'ils emprisonnaient, beaucoup furent fouettés très cruellement. Ils coupèrent les oreilles de certains, et certains ils pendirent. Comme le montrent abondamment les livres des souffrances des amis en Nouvelle-Angleterre, en particulier celui écrit par George Bishop de Bristol, intitulé « New England Judged » en deux parties. Certains des vieux royalistes pressaient les amis de les poursuivre, mais nous leur dîmes que nous les laissions au Seigneur, à qui appartenait la vengeance, et qu'il la rendrait. Et les jugements de Dieu sont depuis tombés lourdement sur eux, car les Indiens ont été soulevés contre eux et en ont retranché beaucoup. Note de Valiant for the Truth, au 7e mois de l'année 1656, deux femmes amies arrivèrent à Boston, Massachusetts, depuis l'Angleterre. Elles furent cruellement traitées et enfermées en prison pendant 5 semaines. Nichola Hopsel, un ancien habitant de Boston et un chrétien sincère, fut profondément affligé de l'état de ces pauvres femmes sans amis. Aucun repas ne leur étant fourni, il amena le geôlier à les approvisionner en le payant 5 shillings par semaine. Elles ne furent libérées de prison que pour être renvoyées en Angleterre. Un mois après, un navire chargé d'amis arriva à Boston, et bien qu'aucune loi n'existât alors contre les Quakers, on les jugea trop dangereux pour leur laisser la liberté et, après un bref emprisonnement, ils furent renvoyés en Angleterre. Le gouverneur, Endicott, fit alors une loi interdisant aux capitaines de navires d'amener des Quakers dans la colonie et menaçant d'emprisonnement quiconque viendrait. Le brave Nichola Hopsel fut fort troublé par cette loi injuste, telle qu'elle lui paraissait, et protesta auprès des dirigeants contre de tels édits, les avertissant de prendre garde, de peur qu'ils ne soient trouvés combattants contre Dieu. Les dirigeants prirent mal une telle intervention, et le vieil homme fut condamné à une amende de 20 livres et banni de la colonie. La colonie, voisine de Rhode Island, offrait asile à tous ceux qui souffraient à cause de leur religion. Roger Williams, son fondateur, avait été banni du Massachusetts pour ses vues libérales, et en organisant le gouvernement de son nouveau foyer, déclara que la doctrine de la persécution pour la cause de la conscience est manifestement et lamentablement contraire aux doctrines de Jésus-Christ. Là, au cœur de l'hiver, Nichola Hopsel dirigea ses pas et fut gentiment abrité sur son chemin par un chef indien, à travers le campement duquel il passa. L'Indien ne pouvait comprendre pourquoi cette personne âgée, faible, entreprenait ce voyage en une saison si rigoureuse, mais lorsqu'il en comprit la cause, il proposa de partager son wigwam avec l'étranger, en disant « Quel dieu ont les Anglais, qui se traitent ainsi les uns les autres au sujet de leur dieu ?» L'hérésie redoutée grandit et augmenta malgré tous les efforts des dirigeants de la colonie du Massachusetts pour l'endiguer, et des lois plus strictes furent promulguées. Une amende fut imposée à tous ceux qui s'absenteraient du culte public. Personne ne pouvait offrir le moindre rafraîchissement à l'un des Quakers haïs sans être condamné à une amende, et tous ceux qui partageaient leur vue furent condamnés à être fouettés, à perdre leurs oreilles, à avoir la langue percée au fer rouge, et si ces mesures ne les amenaient pas à se rétracter, ils devaient être bannis de la colonie. Même les enfants n'y échappaient pas. Dans certains cas, ils furent condamnés à être vendus comme esclaves aux Bermudes, en paiement des amendes infligées à leurs parents. Mais on ne trouva aucun capitaine de navire disposé à exécuter cette sentence injuste, et elle ne fut pas mise à exécution. L'un de nos poètes a brossé un tableau saisissant de cette cruelle imposition dans la ballade de Cassandra Southwick. Mais c'est dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre que la peine extrême de mort fut infligée à ceux dont le plus grand crime, aux yeux de leurs juges, était d'être Quakers. On a déjà mentionné les persécutions auxquelles certains de cette secte y furent soumis, et en 1655 la Cour générale de Plymouth publia une proclamation, les dénonçant comme « publiant des traités dangereux et horribles » et déclarant que quiconque serait reconnu coupable de partager leur vue serait banni de la colonie sous peine de mort. En obéissance à cette loi, quatre personnes reçurent l'ordre de quitter la juridiction. C'était William Robinson, Marmaduke Stephenson, William Ledra et Mary Dier, qui étaient venus à Boston pour travailler pour leur seigneur. En obéissance à cet ordre, ils quittèrent la ville, mais William Robinson et Marmaduke Stephenson ne purent se sentir en pédaler plus loin que Salem. Là, ils passèrent la nuit avec quelques-uns de leurs amis et le matin, après une séparation émouvante, ils repartirent vers Boston avec quelques compagnons décidés à les accompagner. Cela ressemblait presque à un cortège funèbre, tant ils allaient calmement mais solennellement à leur perte, suivant ce qui leur semblait être la direction de leur seigneur. À leur arrivée en ville, ils furent bientôt arrêtés et jetés en prison. Le mois suivant, Mary Dier revint et fut également arrêtée. Les prisonniers furent alors traduits devant le tribunal et la sentence de mort fut prononcée contre eux. Le jour fixé pour leur exécution, une troupe de 200 hommes armés, outre de nombreux cavaliers, fut mobilisée pour escorter ces Quakers inoffensifs et désarmés jusqu'à la potence. Les prisonniers furent placés au centre, avec un tambour juste à côté d'eux, auquel on ordonna de faire assez de bruit pour couvrir leur voix s'ils tentaient de parler aux foules qui les suivaient. Les spectateurs éprouvaient des sentiments mêlés, car tous ne pouvaient se ranger du côté des juges injustes, mais les prisonniers eux-mêmes étaient en paix. On nous dit qu'ils allaient avec une grande allégresse, comme à un festin de noces éternelles. Les hommes souffrirent les premiers, et Mary Dier monta sur l'échafaud, mais quand la corde fut passée autour de son cou, un cri se fit entendre, « Elle est graciée ». Son fils avait intercédé avec tant d'ardeur que sa vie lui fut accordée, à condition qu'elle quittât la colonie immédiatement. Au printemps 1660, Mary Dier sentit qu'elle devait retourner à Boston et se retrouva bientôt dans son ancienne prison. Conduite devant le tribunal, le gouverneur John Endicott lui demanda si c'était bien la même Mary Dier, ce à quoi elle répondit « Je le suis ». Elle donna alors la raison de son retour. Elle croyait que le Seigneur l'avait envoyée pour les supplier d'abroger leur loi méchante et les avertir qu'il punirait assurément ceux qui s'opposeraient à sa volonté. Ses remontrances furent vaines, le gouverneur Endicott était inébranlable et elle fut condamnée à être pendue à 9 h le lendemain. Le matin arriva, Boston Common offrit un spectacle inhabituel. Des groupes de femmes, saisies d'effroi, parlaient à voix basse du triste sort qui attendait celle qui, comme elle, était épouse et mère. Des enfants regardaient avec étonnement et terreur le sinistre gibet dressé devant eux et se demandaient quelle chose mauvaise cette femme avait pu faire pour devoir être pendue. Tandis que des hommes robustes, qui dénonçaient le zèle erroné des Quakers, ne pouvaient qu'admettre qu'ils formaient une secte honnête, et beaucoup auraient volontiers voulu qu'on les laissât tranquilles. Bientôt on entendit le roulement du tambour et le son du fifre, et une compagnie de soldats passa, puis vinrent des hommes battant fort leur tambour, et à leur côté marchait calmement et sereinement l'héroïne du jour, la Quaker High et méprisée. Elle monta sur l'échafaud, et quand on lui proposa de nouveau la vie, à condition qu'elle quittât Boston pour toujours, elle répondit « Non, je ne puis promettre. Par obéissance à la volonté du Seigneur, je suis venue, et dans sa volonté je demeure fidèle jusqu'à la mort. » Le signal fut donné, la trappe s'ouvrit, et ce fidèle témoin de Jésus s'en alla demeurer avec lui pour toujours. D'après l'histoire de 1695 de William Soule, du peuple chrétien appelé Quakers, le gouverneur du Massachusetts, les magistrats de Boston, Cambridge et Salem, les prêtres et beaucoup d'autres officiels qui persécutèrent massivement les Quakers par des coups, des oreilles coupées, des langues percées et des pendaisons, connurent eux-mêmes des morts étranges et dramatiques, reconnaissant parfois qu'il s'agissait du jugement de Dieu. Mais toute la région de Boston subit un jugement encore plus étrange, citant Soule. Pourtant, je puis mentionner ici une chose remarquable, à laquelle, lorsque je l'entendis pour la première fois, je ne pus pleinement ajouter foi, mais pensant qu'il valait la peine d'en faire une enquête rigoureuse, je le fis non seulement par écrit, mais aussi de la bouche de personnes qui en avaient été témoins oculaires ou qui avaient été informées par de tels témoins. Et d'elles j'obtins cette observation concordante, à savoir que la région autour de Boston était autrefois un sol très fertile qui produisait un excellent blé, mais que... Mais comme il y a eu tant d'exemples réitérés d'infécondité plus près de la ville, les personnes âgées encore en vie, qui se souviennent des premiers temps, s'accordent généralement à penser qu'il s'agit là d'un jugement du ciel et d'une malédiction sur le pays, à cause de l'effusion de sang innocent à Boston. Ce récit, je l'ai reçu de tant de personnes dignes de foi, bien que l'une ne connût rien de l'autre, étant très éloignée dans le temps. Toutefois, ce qu'elles me dirent concordait si bien sur l'essentiel que je ne pus que le croire, bien que je ne sois pas d'ordinaire crédule, et c'est pourquoi j'ai été d'autant plus exact dans mon enquête, de sorte que je ne puis plus mettre en doute le fait, mais il me semble que c'est une punition de cette soif de sang qui a cessé depuis longtemps. Il y a un livre sur ce site web qui couvre entièrement les persécutions puritaines des Quakers au Massachusetts. Vers ce temps, je perdis un très bon livre, ayant été saisi entre les mains de l'imprimeur, c'était un livre d'enseignement utile. C'était un tel livre d'enseignement qu'il n'y en avait jamais eu de semblable, contenant la signification et l'explication des noms, paraboles, types et figures dans les Écritures. Ceux qui le prirent en furent si touchés qu'ils eurent peur de le détruire, mais pensant en tirer grand profit, ils auraient voulu nous le rendre si nous leur avions donné une grande somme d'argent pour cela, ce que nous ne nous sentions pas libres de faire. Quelque temps avant cela, alors que j'étais prisonnier au château de Lancaster, parut le livre appelé le Battledo, écrit pour montrer que, dans toutes les langues, il fut écrit en 25 langues, thou et thyson, la forme propre et habituelle de s'adresser à une seule personne, et you à plus d'une. Cela fut exposé par des exemples ou des occurrences tirées des Écritures et de livres d'instruction dans environ 30 langues. John Stubb et Benjamin Feuille y prirent grand soin à le compiler, ce que je leur avais demandé de faire, et j'y ajoutai certaines choses. Lorsqu'il fut achevé, certains exemplaires furent présentés au roi et à son conseil, aux évêques de Canterbury et de Londres, et aux deux universités un exemplaire chacune, et beaucoup furent achetés. Le roi dit que c'était la langue propre de toutes les nations. L'évêque de Canterbury, à qui l'on demanda ce qu'il en pensait, en fut si décontenancé qu'il ne sut que dire. Car cela instruisit et convainquit tellement les gens que, par la suite, peu furent encore si rudes envers nous parce que nous disions « thou » et « dit » à une seule personne, chose pour laquelle auparavant ils étaient extrêmement furieux contre nous. Car « thou » et « dit » étaient une coupure douloureuse pour la chair orgueilleuse et pour ceux qui cherchaient l'honneur d'eux-mêmes, eux qui, bien qu'ils voulussent le dire à Dieu et au Christ, ne supportaient pas qu'on le leur dise. Ainsi nous étions souvent battus et maltraités, et parfois en danger de mort, pour avoir employé ces mots envers certains hommes orgueilleux, qui disaient « quoi ? Rustre mal élevé, tu me tutoies, comme si la bienséance chrétienne consistait à dire « you » à une seule personne, ce qui est contraire à leur grammaire et à leurs livres d'enseignement, par lesquels ils instruisaient leur jeunesse. Or, puisque les évêques et prêtres romains s'employaient avec zèle et ardeur à rétablir leur forme de culte et à contraindre tous à s'y rendre, je fus poussé à publier l'écrit suivant, pour ouvrir la nature du vrai culte que le Christ a établi et que Dieu accepte. Ainsi, l'adoration du Christ est libre dans l'esprit pour tous les hommes, et ceux qui adorent en esprit en vérité sont ceux que Dieu cherche pour l'adorer, car il est le Dieu de vérité, et il est esprit, et le Dieu des esprits de toute chair. Il a donné à toutes les nations d'hommes et de femmes le souffle et la vie pour vivre, se mouvoir et avoir leur être en lui, et il a mis en eux une âme immortelle. Ainsi, toutes les nations d'hommes et de femmes doivent être des temples pour qu'il y demeure, et ceux qui souillent son temple, il les détruira. Or, de même que les Juifs extérieurs, tant qu'ils avaient leur temple extérieur à Jérusalem, devaient s'y rendre pour adorer ce temple, Dieu l'a depuis longtemps renversé, et détruit cette Jérusalem, la vision de paix, et il a rejeté les Juifs et leur culte. Et à leur place, il a établi son culte évangélique dans l'esprit et dans la vérité, de même maintenant tous doivent adorer en esprit et en vérité. C'est un culte libre, car là où est l'esprit du Seigneur et où il règne, là est la liberté, on voit les fruits de l'esprit, et ils se manifesteront. L'esprit ne doit pas être limité, mais vécu et suivi, afin que ses fruits paraissent. L'ivraie est de ceux qui s'attachent au blé, et par là l'entraînent vers la terre. Pourtant l'ivraie et le blé doivent croître ensemble jusqu'à la moisson, de peur qu'en arrachant l'ivraie on arrache le blé avec l'ivraie. L'ivresse, ce sont ceux qui n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité, mais attristent l'esprit, le tourmentent et l'éteignent en eux-mêmes, et ne marchent pas dans la vérité. Pourtant, ils s'attachent au blé, aux vrais adorateurs en esprit et en vérité. L'Église du Christ n'a jamais été établie par le sang, ni soutenue par des prisons, et ses fondements n'ont pas été posés par des hommes aux armes charnelles, ni n'est-elle préservée par de tels moyens. Quand les hommes se sont détournés de l'esprit et de la vérité, ils ont pris des armes charnelles pour maintenir leurs formes extérieures, et pourtant ils ne peuvent les préserver par leurs armes charnelles, car l'un renverse la forme de l'autre avec ses armes extérieures. Et cette œuvre s'est faite parmi les chrétiens de nom depuis qu'ils ont perdu l'esprit, les armes spirituelles et le vrai culte que Christ a établi, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la vérité. Et l'esprit et la vérité dans lesquels adorent ceux qui adorent sont au-dessus de toute l'ivraie. Tous ceux qui voudraient essayer d'arracher l'ivraie en sont empêchés par le Christ, à qui toute puissance au ciel et sur la terre a été donnée, car l'ivraie et le blé doivent croître ensemble jusqu'à la moisson, comme le Christ l'a commandé. La pierre qui frappa l'image devint une grande montagne et remplit toute la terre. Or, si la pierre remplit toute la terre, toutes les nations doivent être des temples pour la pierre. Tous ceux qui disent travailler pour la semence, et pourtant ne produisent rien d'autre qu'une naissance de querelle, de contention et de confusion, leurs fruits montrent que leur travail est mauvais, car c'est par le fruit que l'issue de l'œuvre de chacun se voit pour ce qu'elle est. George Fox, à cette époque, de nombreux papistes et jésuites commencèrent à cajoler les amis, et parlaient partout où ils passaient, disant que de toutes les sectes les Quakers étaient les meilleurs et les plus renonçants, et ils disaient « Quel grand dommage qu'ils ne retournent pas à la Sainte Mère l'Église ». Ainsi firent-ils bourdonner la rumeur parmi le peuple, et disaient, ils seraient volontiers disposés à s'entretenir avec les amis. Mais les amis répugnaient à se mêler d'eux, parce qu'ils étaient jésuites, jugeant cela à la fois dangereux et scandaleux. Mais lorsque je l'appris, je dis aux amis, discutons avec eux quels qu'ils soient. On fixa donc un moment chez Gérard Robert, deux d'entre eux y vinrent, tels des courtisans. Ils demandèrent nos noms, que nous leur dîmes, mais nous ne demandâmes pas les leurs, car nous savions qu'on les appelait papistes, et ils savaient qu'on nous appelait Quakers. Je leur posai la même question que j'avais autrefois posée à un jésuite, à savoir, l'Église de Rome ne s'est-elle pas dégénérée de l'Église des temps primitifs, s'éloignant de l'esprit, de la puissance et de la pratique où étaient les apôtres? Celui à qui je posais cette question, étant subtil, dit, il n'y répondrait pas. Je lui demandai pourquoi, mais il n'en donna aucune raison. Son compagnon dit qu'il me répondrait, et il dit, ils ne se sont pas dégénérés de l'Église des temps primitifs. Je demandai à l'autre s'il était du même avis, il dit « oui ». Alors je répondis que, pour mieux nous comprendre et afin qu'il n'y eût pas de malentendu, je répéterai ma question de la manière suivante. L'Église de Rome est-elle aujourd'hui dans la même pureté, la même pratique, la même puissance et le même esprit que l'Église au temps des apôtres? Lorsqu'ils virent que nous serions précis avec eux, ils s'agitèrent et le nièrent, disant « c'est de la présomption pour quiconque de dire qu'il a la même puissance et le même esprit que les apôtres. » Je leur dis que c'était de la présomption de leur part de se mêler des paroles du Christ et de ses apôtres, et de faire croire aux gens qu'ils succédaient aux apôtres, tout en étant forcés d'avouer qu'ils n'étaient pas dans la même puissance et le même esprit que les apôtres. Ceci, dis-je, est un esprit de présomption, et il est repris par l'esprit des apôtres. Je leur montrai combien leurs fruits et leurs pratiques différaient des fruits et des pratiques des apôtres. Alors l'un de se leva et dit, « Vous êtes une bande de rêveurs. Non, dis-je, c'est vous qui êtes les rêveurs immondes, vous qui rêvez que vous êtes les successeurs des apôtres, et pourtant vous avouez que vous n'avez pas la même puissance et le même esprit que les apôtres. Et ne sont-ils pas des souilleurs de la chair, ceux qui disent, « C'est de la présomption pour quiconque de dire qu'il a la même puissance et le même esprit que les apôtres avaient. » Or, dis-je, si vous n'avez pas la même puissance et le même esprit que les apôtres avaient, il est manifeste que vous êtes conduits par une autre puissance et un autre esprit que ceux par lesquels étaient conduits les apôtres et l'Église des temps primitifs. Alors je commençai à leur dire comment cet esprit mauvais, par lequel ils étaient conduits, les avait conduits à prier avec des chapelets et des images, à établir des couvents, des fraternités et des monastères, et à mettre des gens à mort pour la religion, pratique dont je leur montrai qu'elle était au-dessous de la loi et bien loin de l'Évangile, où est la liberté. Ils se lassèrent bientôt de cet entretien et s'en allèrent, et, comme nous l'avons appris, ils donnèrent l'ordre aux papistes de ne pas discuter avec nous, ni de lire aucun de nos livres. Ainsi nous en fûmes débarrassés, mais nous eûmes des controverses avec toutes les autres sectes, presbytériens, indépendants, sikhs, baptistes, épiscopaliens, sauciniens, brownistes, luthériens, calvinistes, arminiens, hommes de la cinquième monarchie, familistes, mugletoniens et rentés, aucun desquels n'affirmait avoir la même puissance et le même esprit que les apôtres avaient et dans lesquels ils étaient. Ainsi, dans cette puissance et cet esprit, le Seigneur nous donna domination sur eux tous. Quant aux hommes de la cinquième monarchie, je fus poussé à publier un écrit pour leur manifester leur erreur, car ils attendaient la venue personnelle du Christ sous une forme et d'une manière extérieure, et en fixaient la date à l'année 1666. À cette époque, certains d'entre eux se préparèrent quand il tenait et pleuvait, pensant que le Christ était alors venu établir son royaume, et ils s'imaginaient qu'ils devaient tuer la prostituée au dehors d'eux. Mais je leur dis que la prostituée était vivante en eux, et qu'elle n'était pas brûlée par le feu de Dieu, ni jugée en eux par la même puissance et le même esprit dans lesquels étaient les apôtres. Et leur attente de la venue extérieure du Christ pour établir son royaume ressemblait à celle des pharisiens, le voici ici et le voilà là. Mais le Christ est venu et a établi son royaume il y a plus de 1600 ans, selon le songe de Nebuchadnezzar et la prophétie de Daniel, et il avait mis en pièces les quatre monarchies, la grande statue avec sa tête d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile, et elles furent toutes emportées par le vent de Dieu, comme la balle sur l'air en été. Et lorsque le Christ était sur la terre, il dit que son royaume n'était pas de ce monde, s'il l'avait été, ses serviteurs auraient combattu, mais il ne l'était pas, donc ses serviteurs ne combattirent pas. Ainsi tous les hommes de la cinquième monarchie qui se battent avec des armes charnelles ne sont pas des serviteurs du Christ, mais de la bête et de la prostituée. Le Christ a dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, ainsi son royaume a été établi il y a plus de 1600 ans, et il règne. Et nous voyons Jésus-Christ régner, dit l'apôtre, et il règnera jusqu'à ce que toute chose soit mise sous ses pieds, bien que toute chose ne soit pas encore mise sous ses pieds ni soumise. » Fin du volume. Et pendant que cela se passait en Angleterre, plusieurs femmes pleines de renoncement quittèrent leur foyer confortable et partirent, à l'appel de leur maître, pour porter la connaissance du glorieux évangile du Christ aux adeptes ignorants et aveuglés de faux dieux. Mary Fisher fut une autre femme qui vint à la foi en Jésus-Christ par le ministère de George Fox. Lorsque Mary Fisher commença à prêcher, chose scandaleuse pour une femme, elle aussi fut emprisonnée. Le délit qu'on lui reprochait était d'avoir parlé à un prêtre, ce qu'elle avait fait au ministre de sa paroisse. Les 16 mois qui suivirent la trouvèrent dans une geôle fétide, tout en étant en même temps instruite dans la voie du discipulat par d'autres Quakers emprisonnés. Quand elle fut libérée, le maire d'une ville voisine la fit, elle et d'autres femmes Quakers, dénudées jusqu'à la taille pour une humiliation publique, puis les fit fouetter. En 1655, Mary, accompagnée d'une autre Quaker, une femme avec 5 enfants, embarqua pour l'Amérique. À leur arrivée en Nouvelle-Angleterre, elles trouvèrent les autorités puritaines hostiles, 100 de leurs livres furent brûlés. Les 2 femmes furent dénudées, fouillées à la recherche de signes de sorcellerie, et emprisonnées. Elles seraient mortes de faim si le geôlier n'avait pas été soudoyé. Les autorités finirent par les relâcher et les expulsèrent immédiatement vers l'Angleterre. 2 ans plus tard, Mary Fisher se crut appelée par Dieu à recommander l'Évangile au sultan de Turquie. À son arrivée à Smyrne, elle demanda au consul britannique comment elle pouvait contacter le sultan. Le consul britannique lui dit que sa mission était insensée et la fit embarquer sur un navire pour l'Angleterre. Elle réussit à persuader le capitaine du navire qu'elle n'était ni dérangée ni sotte. Il la fit débarquer au port suivant. Mary parcourut 600 milles par voie de terre pour trouver le sultan Mohammed Iv avec son armée de 20 000 hommes. Un message de sa part l'informa qu'une Anglaise était venue avec quelque chose à lui déclarer de la part du grand Dieu. Une audience fut accordée et, le lendemain matin, on la conduisit en présence du sultan, revêtue de ses habits d'apparat et entourée de ses officiers, eux aussi magnifiquement vêtus. Dans cette scène de pompe et de splendeur entra la simple Quake, comme David jadis devant Goliath, sans armes propres, mais au nom du Seigneur des armées. Le sultan, par ses interprètes, lui demanda courtoisement d'énoncer son message et l'écouta attentivement tandis qu'elle parlait. Elle lui dit qu'elle avait un message de le grand Dieu, il l'a reçu avec toute la bienveillance et le protocole dû à un ambassadeur. Elle lui exposa ce que Dieu avait mis sur son cœur, et cela fut traduit en arabe. Ensuite, elle mit les voiles pour l'Angleterre. Le sultan Mohammed, bien qu'apparemment au sommet de la puissance et de la gloire au début de son règne, ne trouva à sa fin que trouble et perplexité et déposé par ses sujets, mourut dans la retraite. Finalement, Mary Fisher se maria et retourna en Amérique, s'établissant non pas cette fois en Nouvelle-Angleterre mais à Charleston, en Caroline du Sud, où reposent ses restes. Catherine Evans et Sarah Chivers, qui étaient parties pour Alexandrie, ne reçurent pas un accueil aussi favorable, car à leur débarquement à Malte, elles furent bientôt arrêtées sur ordre de l'Inquisition catholique romaine et emprisonnées dans une petite pièce où il n'y avait que 2 trous pour la lumière et l'air. Elles étaient si accablées par la chaleur qu'elles s'allongeaient souvent sur le sol près de leur porte, espérant qu'un peu d'air entrerait par le seuil. Leur peau était desséchée, leurs cheveux tombaient, et elles s'évanouissaient souvent. Enfin, on leur permit de garder la porte ouverte une partie du temps chaque jour. Les inquisiteurs leur rendaient souvent visite, s'efforçant de les persuader de renoncer à leur religion et les menaçant de mort si elles ne le faisaient pas. Mais elles demeurèrent fermes et exprimèrent hardiment leurs opinions, confondant leurs adversaires par la puissance et la vérité avec lesquelles elles défendaient leurs principes. Malgré toutes leurs épreuves, la paix de Dieu remplissait tellement leur cœur qu'elles purent écrire ceci : « Nous nous réjouissons grandement et glorifions le nom de notre Père céleste. Quoique nous soyons les plus petits du troupeau, nous appartenons pourtant au vrai bercail, dont Christ Jésus est le berger, et il a pour nous un tendre souci, et il nous a portés à travers et au-dessus de nos grandes afflictions. Nous sommes témoins qu'il peut dresser une table dans le désert, tant pour le temporel que pour le spirituel. Ô l'amour sans fin de notre Dieu, qui est comme une fontaine éternelle, dont les ruisseaux cristallins ne cessent jamais de couler vers toute âme assoiffée. » La rigueur de leur détention fut finalement quelque peu atténuée, et elles prêchèrent Jésus avec zèle à tous ceux qui s'approchaient d'elles. Après de nombreuses démarches infructueuses de leurs amis en Angleterre pour obtenir leur libération, George Fox se rendit auprès du comte de Daubeny et présenta l'affaire en des termes si forts qu'il promit d'écrire aux autorités de Malte, exigeant leur libération. Celle-ci fut effectivement obtenue, après 3 années de privation et de souffrance, durant lesquelles ces 2 femmes frêles et délicates purent illustrer la vérité de cette déclaration « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Source : Valiant for the Truth and Life of Mary Fichet. Retour suivant.